Chapitre 4. Londres. Dès leur arrivée à Downing Street, le colonel Barnes et Eric Jackson perçurent qu'il y avait de l'eau dans le gaz, puisque le premier ministre qui les convoquait ne pouvait plus le recevoir. « Il n'a pas fini sa sieste », ironisa un des assistants avec un clin d'œil. « Il termine un roman policier », ajouta un autre. « Il peaufine son discours de demain pour les communes », corrigea un troisième. Qui disait vrai? Churchill aimait être pris pour un excentrique. Il s'amusait en travaillant. Du reste, le premier ministre ne tenait pas en place. Et ce n'est pas parce qu'il allait discourir au Parlement le lendemain qu'il ne faisait pas la sieste, bien au contraire. C'est donc un ténor du Foreign Office, le diplomate Sir Archibald Smith Ballsonberry, qui fut chargé de les recevoir et de leur annoncer la nouvelle. L'homme exhalait un parfum d'ambre musqué, mais malgré ses 60 ans, il avait encore fière allure avec sa crinière poivre et sel, ses lèvres carnassières, son nœud papillon rouge, sa chemise en soie bleue et ses boutons de manchette en or massif. Sir Archibald fit entrer les visiteurs dans un petit salon près de l'entrée, s'assit en tirant avec soin sur son pantalon d'alpaga, puis consulta sa montre comme pour signaler d'emblée qu'il avait peu de temps à consacrer à ces deux paysans venus du Kenya et du pays de Galles. Sans doute regrettait-il de ne pas avoir un sablier sous la main, tant ces minutes étaient rares et précieuses. Le voyage avait été long, mais le message fut bref. « Il faut arrêter Bushido. Ordre du Premier ministre. En plein accord avec le ministre des Affaires étrangères Eden, le secrétaire d'État Amery, le commandant en chef Wavell, et le vice-roi des Indes, Linlithgow. Arrêter Bushido? Barnes le savait mieux que quiconque, c'était impossible. Il le fit savoir d'une voix ferme. Lloyd et Tapa, expliqua-t-il, étaient à pied d'œuvre en Allemagne. Paternoster ne disposait d'aucun moyen pour les contacter. Ce qui parut contrarier le bellâtre du Foreign Office. De sa main manucurée, il laboura l'écran de sa chevelure, y cherchant quelque inspiration diplomatique. Qu'entends-je, s'étonna-t-il, la couronne n'aurait plus de contact en Allemagne? Sir Archibald attendit la réponse en jouant avec la chevalière aux armes de sa famille.
Nous avons quelques agents sur place, bien entendu, concéda le colonel, mais ils ont tous une mission précise à remplir. Quand bien même pourrions-nous les contacter sans risque, ce qui n'est pas le cas, comment pourrait-il retrouver Lloyd et Tapa?
L'aristocrate fit la moue.
L'Allemagne n'est pas le Congo ou la Chine. Si j'ai bien lu le dossier Bushido, que je m'apprête d'ailleurs à détruire, vos deux protégés passeront à Fribourg, Munich et Berlin. Trois villes, ce n'est pas la mer à boire. J'imagine que vos hommes descendront dans des hôtels de luxe. Pas très difficile à localiser, par conséquent. Par ailleurs, si j'en crois mes services, Londres a des informateurs grassement payés dans les ambassades des pays neutres, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, la Suisse, le Vatican, l'Irlande, la Suède. Barnes secoua la tête.
En effet, Sir Archibald, mais ces gens-là nous sont beaucoup trop précieux. Nous n'allons pas les brûler sous prétexte que Downing Street a soudain des aigreurs d'estomac.
En bon diplomate, l'homme du Foreign Office feignit de ne pas avoir entendu.
« Dois-je vous rappeler, poursuivit le colonel, que Bushido nous a demandé plus de 6 mois de préparation? En Angleterre, en Écosse, en Égypte, en Palestine, en Inde, à Malte et en Italie. C'est comme un avion qui décolle. Il y a un moment à partir duquel on ne peut plus le stopper. Comment arrêter Bushido puisque, je vous le répète, personne ne sait où sont Lloyd et Tapa? Quelque part en Allemagne, c'est vague. »
Archibald Smith Ballsonberry n'était pas convaincu.
Eh bien, c'est simple. Il faut envoyer quelqu'un là-bas. Pourquoi pas votre agent de Rome, Adrian Foster? Il nous est beaucoup trop précieux au Vatican.
L'homme donna un nouveau coup d'œil à sa montre.
Ce nonobstant, il conviendrait de trouver une solution. Le Premier ministre vous donne 24 heures pour préparer un plan crédible, une nouvelle opération en quelque sorte. Soyez là demain après la sieste.
Mais pourquoi diable voulez-vous donc annuler ce qui, hier encore, était prioritaire? S'étonna Jackson. la bêtise des Anglais l'amuserait toujours. « La politique, mon cher, la politique, » répliqua Sir Archibald. « Nous naviguons à vue, au mieux des intérêts supérieurs de la couronne. » Le diplomate ferma les yeux un instant, et la carte du monde lui apparut. Toutes les colonies britanniques y étaient imprimées en rouge vif, et il crut entendre sonner dans le lointain les buccins et les trompettes des virils héros chargés de défendre les frontières de l'Empire. « Je ne vous apprendrai rien, » poursuivit-il, « en vous disant que la situation a changé au cours des derniers jours. Rommel a du plomb dans l'aile et peu de carburant dans ses panzers. Si Dieu le veut, Montgomery en fera une bouchée et l'Égypte restera britannique. D'autant que les Américains, ne le dites à personne, s'apprêtent à débarquer en Afrique du Nord. Sur le front russe, l'hiver devrait être fatal aux Teutons. Friedrich von Paulus, dont je doute qu'il soit aristocrate, sera écrasé avant Noël. L'île de Malte semble par ailleurs sauvée. Les raids aériens se raréfient, alors qu'en avril, il y en a eu près de 300. Il reprit son souffle, sortit un porte-cigarette en ivoire et se saisit d'une cravenne qu'il alluma avec une lenteur calculée. En Inde et à Ceylan, la situation reste délicate. Vous savez que les Japonais ont bombardé Colombo et la côte est de l'Inde. Le golfe du Bengale est devenu une mer japonaise. Chaque jour, les Nippons infiltrent des espions et des saboteurs par la frontière de l'Assam, tandis que les Allemands continuent de tisser leur toile en Afghanistan. Beaucoup d'Indiens, j'imagine, se jetteraient dans les bras des Japonais si par malheur ceux-ci débarquaient un jour. Oui, la fameuse cinquième colonne. Voyez ce qui s'est passé avec les soldats indiens à Singapour, en Birmanie, en Malaisie et à Hong Kong. Ils ont vite changé leur fusil d'épaule. Une humiliation pour la couronne, la plus grande de son histoire. Le vieux beau s'arrêta un instant en guise de deuil. Et puis, reprit-il après s'être humecté les lèvres d'un coup de langue, il y a la situation à l'intérieur de l'Inde, l'échec de Stafford Cripps et l'habituel chantage de Gandhi. Les émeutes sanglantes. Le plus grave, c'est le sabotage des lignes de chemin de fer et des gares, mais aussi toutes ces grèves ridicules qui ralentissent la production et fragilisent notre effort de guerre. Nous dépensons beaucoup trop d'énergie, d'argent et de vies humaines au maintien de l'ordre, alors que l'ennemi est aux portes de l'Inde. Comme si nous n'avions que cela à faire. Alors nous arrêtons à tour de bras, nous bombardons même les rassemblements populaires, dès lors qu'ils menacent nos postes de police, nos gares, nos chemins de fer, nos lignes téléphoniques, nos communications. Pour tout arranger, les Américains se mêlent comme d'habitude de ce qui ne les regarde pas. Roosevelt a même envoyé un de ses sous-verges en Inde pour nous faire un enfant dans le dos. Les Yankees flattent la croupe des Indiens et évoquent les lendemains qui chantent avec des trémolos dans la glotte. Comique, vous ne trouvez pas ? Sir Archibald éclata d'un grand rire. Ces massacreurs de Peau-Rouge sont de grands donneurs de leçons, poursuivit-il. La morale, c'est leur fonds de commerce. Par ailleurs, ils savent que l'Inde est un formidable marché. En attendant, la guerre reste notre seule et unique priorité. Nous avons besoin de l'Inde, de ses soldats et de ses usines. Après la répression de ces dernières semaines, l'heure de l'apaisement est proche. Bon. Nous avons remis Gandhi en prison le mois dernier. Il adore ça. Mais je vous rassure tout de suite, sa geôle est un confortable palais. Résultat, il nous faut maintenant promettre la lune aux Indiens. L'autonomie, le statut de dominion, l'indépendance même, pourquoi pas. Churchill prépare une déclaration à ce sujet pour la Chambre des communes. Certes, il paraît aujourd'hui peu vraisemblable que les Japonais lancent une offensive d'envergure en Inde. Bien sûr, ils occupent déjà les Andamans, mais qui se soucie de ces îles perdues au diable Vauvert? Personne n'en a jamais entendu parler. Détrompez-vous, Sir Archibald, intervint Jackson, qui, en bon colonial, se flattait de connaître l'histoire de l'Empire. C'est là que les Anglais ont enfermé les cipayes après la grande mutinerie. Et n'est-ce pas là qu'un Afghan a assassiné un vice-roi? Même au Kenya, le bagne de Port Blair est aussi connu qu'Alcatraz. Sir Archibald n'aimait que ses propres conférences. Il regarda sa montre. Il nous couve un ulcère à l'estomac, pensa le policier. Du coup, messieurs, reprit soudain l'homme du Foreign Office, la donne politique a changé. il nous faut envisager ce qui se passera en Inde après la guerre. Les communistes vont s'en donner à cœur joie. Ils réclameront l'indépendance de l'Inde, de Ceylan, de Malte, du Kenya, de Jersey, des îles Malouines, de Tristan da Cunha et du moindre caillou inhabité où flotte l'Union Jack. Gandhi est un finaud et un grand acteur, excellent même quand il s'agit de jeûner ou de traire sa chèvre, mais c'est un pitre. Avec sa campagne de désobéissance, il devient l'allié objectif des Boches et des Japonais. Il est donc hors jeu. Et que nous restera-t-il après la guerre quand il faudra partager les dépouilles? Un musulman, Jinnah, qui d'ailleurs n'est pas plus musulman que vous ou moi, et deux pseudo-hindous, Nehru et Bose, des gentlemen puisque formés en Angleterre. L'ennui avec Nehru, c'est qu'il se dit socialiste. Normal et classique puisqu'il est riche. Il trouva sa plaisanterie osée et la dégusta à petite gorgée avant de reprendre. Bref, fit-il, l'intellectuel Nehru jouera la carte de l'URSS. Bose aussi se dit socialiste, mais lui a un réel soutien populaire, surtout chez les jeunes, l'Inde de demain. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous n'écartons pas, en cas de besoin, de nous rapprocher de Bose après la guerre. Vous auriez pu y penser avant, grommela Barnes en allumant une Players. Tout change, colonel, tout change. Les terroristes du lundi sont les humanistes du jeudi si la raison d'État l'exige. La politique, c'est comme la conduite automobile. Il faut savoir anticiper. Ce pauvre Bose n'est pas un mauvais bougre, au fond. L'assassiner serait une grave erreur. Nous nous priverions d'un deuxième choix si d'aventure Nehru nous glissait d'entre les doigts et allait cantiflerait à Moscou. Les Indiens ne nous pardonneraient pas la mort de Bose, celui qu'ils appellent Netaji, le chef. Il a la cote en Asie. Nous l'avons constaté il y a quelques semaines, quand la BBC a annoncé que son avion s'était écrasé. Annonce fort prématurée, ironisa le colonel. J'en conviens, certes. Résumons-nous. L'opération Bushido est terminée. Elle n'a d'ailleurs jamais existé. Le Premier ministre exige que Paternoster détruise dès demain tous les documents sur cette affaire. Et rappelez-moi vite vos deux commis voyageurs, Lloyd et Tapa. Ils auront droit à une belle décoration après l'armistice. Bonne soirée à Londres, messieurs. Rendez-vous ici même demain après-midi. Il se leva brusquement et conduisit ses interlocuteurs vers la porte. Fils de pute! « Macroute salon !» hurla le colonel dès qu'ils eurent franchi la porte de Downing Street. « Ce mariole nous prend pour des cons !» Derrière leur sac de sable, les plantons de service lui jetèrent un regard outragé. Même Jackson n'en croyait pas ses oreilles. C'était la première fois en 40 ans qu'il entendait le colonel s'écarter du vocabulaire classique. En quelques secondes, Barnes avait épuisé le stock de gros mots qu'il refoulait depuis des lustres. Rome. Mario Volponi se frotta les mains. Finalement, tout allait plus vite que prévu. L'imprimeur réquisitionné avait appelé l'un de ses employés et ouvert son atelier le dimanche. Le soir même, des centaines d'enveloppes quittèrent la poste centrale. Pour gagner du temps, le portrait des individus recherchés fut porté à moto au poste frontière. Il fut affiché dans celui de Brennero à la première heure le lundi 7 septembre. Ce même jour, en fin d'après-midi, Volponi reçut un premier appel. Le chef des carabinieri de Catanzaro, en Calabre, lui fit savoir que l'un de ses hommes se souvenait d'avoir vu monter les suspects quelques jours plus tôt à la gare. Ils avaient pris le train de Rome. Volponi étouffa un juron. Ce coup de téléphone ne lui apprenait rien, mais il prouvait du moins que son idée fonctionnait. Volponi avait le sentiment que les deux hommes étaient déjà à l'étranger. Dès que des faits tangibles confirmeraient que son intuition était la bonne, il prendrait d'autres mesures. Prévenir les Allemands, par exemple. Encore fallait-il en savoir plus afin d'offrir à ces messieurs sur un plateau d'argent les éléments qui leur permettraient d'arrêter les espions en Allemagne ou en France. La tâche serait plus délicate s'ils étaient passés en Suisse ou au Vatican. Mais le Troisième Reich y disposait aussi, le ciel en soit loué, de nombreux informateurs. Rester là à attendre ne servirait à rien. Volponi confia la gestion des éventuels appels à l'un de ses hommes. Il avait promis à sa femme, dont c'était l'anniversaire, d'être à la maison pour dîner. Pour une fois, il était très en avance, ce qui lui permettrait de faire un saut chez sa maîtresse. Berlin. Le docteur Hoffmann savait ce qu'il devait faire en cas de danger maximum, et il se félicita d'avoir étudié toutes les hypothèses avec Martin. Il quitta son cabinet à l'heure habituelle, alla saluer les 5 personnes opérées dans la matinée, puis sans hâte se dirigea vers sa voiture. Quelques minutes plus tard, alors qu'il roulait vers le centre de Berlin, le médecin repéra dans le rétroviseur le taxi qui le suivait. Ce cornichon de broyeur, sans doute. Pas si stupide que cela, tout de même, puisqu'il avait flairé que l'opération chirurgicale cachait quelque chose. Près de l'entrée ouest du Tiergarten, Hoffmann s'arrêta devant un marchand de journaux et alla acheter 2 exemplaires du Völkischer Beobachter. Le vendeur lui fit un clin d'œil et lui rendit la monnaie sans rien dire. Le chirurgien remonta dans sa voiture et prit la direction de son domicile. 1 heure plus tard, à la sortie du bureau, Martin Wurtz acheta lui aussi le quotidien du parti au même marchand de journaux. L'homme lui remit 2 exemplaires. Un feu rouge s'alluma aussitôt. Le docteur Hoffmann l'informait qu'il était désormais lui aussi sous surveillance. Sachant ce qu'il lui restait à faire, Martin remonta dans sa Horche. Il espéra que c'était une fausse alerte, car son départ d'Allemagne reposait en grande partie sur la collaboration du médecin. C'est lui, en effet, qui avait caché les 2 passeports qui permettraient de fuir. Les documents étaient en lieu sûr, cachés quelque part à la morgue. Encore fallait-il que le chirurgien fût là pour les récupérer. Par principe, Martin jeta lui aussi un coup d'œil à son rétroviseur. Il savait ce qu'il y découvrirait, et il ne fut pas déçu. Comme tous les jours, Trudy Schneider le suivait dans sa puissante Mercedes. Fribourg en Brisgau. De nature anxieuse, Elisa Wagner arrivait toujours à ses rendez-vous avec 20 minutes d'avance. Il en fut de même ce jour-là, quand elle se rendit à la cathédrale pour y rencontrer ses 2 visiteurs. Du coup, il fallait tuer le temps. Elle acheta un paquet de Nil, fuma 3 cigarettes à la chaîne, tout en faisant le tour de la cathédrale. Elle était venue à pied, s'étonnant de constater à chaque pas que la vie continuait comme avant. Avant la guerre, avant le suicide de Magda. Le soleil brillait dans la vallée, les oiseaux chantaient, les femmes arboraient de coquets vêtements d'été, souriaient à la vie et à leurs enfants. La guerre n'était perceptible qu'à de petits détails. Peu d'hommes jeunes dans la rue, à l'exception d'un groupe de Hitlerjugend et de militaires en uniforme. Moins de voitures aussi, car il ne fallait pas puiser sur les réserves de carburant. Certains magasins étaient fermés depuis des années et personne ne les avait rouverts. Ils appartenaient à des Juifs, lesquels ne vivaient plus à Fribourg. Des rumeurs contradictoires couraient à leur sujet. Certains prétendaient qu'ils étaient réfugiés en Angleterre et aux États-Unis, d'autres assuraient que les Juifs d'Europe se regroupaient en Palestine, la terre de leurs ancêtres, ou à Madagascar, ce qui semblait étrange. On disait aussi que l'armée les parquait dans les camps. Comment savoir, puisque la presse d'opinion avait disparu, que les journaux étrangers étaient interdits et que la BBC elle-même était devenue une radio de propagande. Pour Elisa, les dernières informations fiables dataient du 7 décembre 1941, le jour de Pearl Harbor. Elle les avait glanées sur le quai de la gare le jour où son ami, le journaliste américain Richard Dutch, prenait le train pour la Suisse. Ce qu'il lui avait dit faisait froid dans le dos. En ce 7 septembre, Fribourg s'étirait sous la chaleur de l'été. Le père d'Elisa était mort. Elle n'avait ni frère ni cousin. Aucun membre de sa famille n'était par conséquent à la guerre, dont la réalité n'apparaissait que de manière impersonnelle et fugitive. Au début des combats, un bombardement avait fait quelques dégâts dans la ville, mais cet épisode isolé appartenait au passé. Alors qu'une partie du monde était à feu et à sang, Fribourg restait une oasis de paix. Certes, l'université où Elisa enseignait jadis n'était plus ce qu'elle était, mais c'était dans l'ordre des choses. Les professeurs restent de grands enfants naïfs, immatures et conformistes. Par ailleurs, il y avait pléthore de drapeaux dans la ville. Mais ces symboles rouges et noirs des temps nouveaux ne constituaient en rien une gêne majeure. Ils étaient irritants, voilà tout. Le front était loin, si loin, tout là-bas sur les marches orientales de l'Europe, en Méditerranée, en Afrique, au cœur même de l'Atlantique ou du Pacifique. On n'en percevait les échos que dans la presse officielle, qu'Elisa ne lisait pas, aux informations projetées avant le début des films, mais elle n'allait jamais au cinéma, et sans doute dans les hôpitaux, où elle n'avait aucune raison de se rendre. C'était en somme une guerre sans coups de canon et sans soldatesque. La vie culturelle, si l'expression avait encore un sens, était même plus animée qu'avant 1939. Les théâtres faisaient le plein et les concerts se succédaient. Des écrivains venus d'Italie et de France donnaient des conférences et signaient leurs chefs-d'œuvre. Certes, il y avait aussi, Elisa le savait, une autre guerre, une guerre de l'ombre, celle de l'espionnage et du renseignement. Mais celle-ci, par définition, était encore plus invisible que celle des armes. Elle pénétra dans la cathédrale, remonta vers le chœur par la grande nef, puis redescendit vers la chaire et s'assit sur le banc en bois près de l'escalier de pierre. Le sanctuaire était presque vide. Seules quelques vieilles femmes concentrées sur leurs prières étaient assises çà et là. Elisa n'entendit pas les deux hommes arriver, et c'est seulement lorsqu'ils prirent place derrière elle qu'elle perçut le signe d'une présence et se retourna. Non, elle devait s'être trompée. C'était un prêtre et un vieillard. Ce ne pouvaient être les agents venus de Londres. Une voix lui indiqua pourtant que sa première réaction était la bonne. C'était bien eux, malgré les apparences. Le mot de passe en grec était le bon. « Italassa ven anikipoli. » La mer n'est pas loin. Et elle s'empressa de répondre « Italassa tis elada inne maieftiki. » La mère de Grèce est enchanteresse. Christen se leva, quitta sa travée et alla s'asseoir près de la femme. « Bonjour, Violette, dit-il. Excusez mon accent grec, mais ce n'est pas moi qui ai choisi ces phrases stupides. » L'inconnu massacrait le grec, en effet, mais son allemand était impeccable. Elisa eut un sourire. « Je ne risque pas de vous prendre pour un marin du Pirée, fit-elle. Mais nous ne sommes pas là pour parler phonétique. Je vous écoute. » Christen baissa la voix. Il expliqua qu'il ne serait en Allemagne que quelques jours. Dès que leur mission serait accomplie, il leur faudrait passer en Suisse. « Nous serons quatre, précisa-t-il. C'est ici, Violette, que vous intervenez. Nous serons cinq, car je serai des vôtres. Rassurez-vous, mon plan est fin prêt. Il ne me reste que de tout petits détails vestimentaires à régler. » Elle lui donna rendez-vous à partir du samedi 12 dans la maison familiale qu'elle possédait au sud-est de la Forêt Noire, près de Kirchenhausen, où elle les attendrait le temps qu'il faudrait. Elisa remit à Christen un plan des lieux avec toutes les indications utiles à mémoriser avant de le détruire. « Pour passer en Suisse, poursuivit-elle, le mieux sera de descendre vers Raffs, Schaffhausen ou Ramsen. » Car ce sont les seuls endroits où nous n'aurons à traverser ni le Rhin ni le lac de Constance. De Kirchenhausen, nous serons rapidement à pied d'œuvre. Je quitterai Fribourg dans 2 ou 3 jours. Au fait, comment dois-je vous appeler? Mon père, monsieur le curé, mon révérend, éminence, ou peut-être avez-vous un nom de code? Christen sourit. Mes chefs, hélas, ont omis de m'en donner un. Vous saurez mon vrai nom en Suisse, lorsque nous fêterons cela devant un verre. En attendant, vous pouvez m'appeler Bagels. C'est joli, Bagels. Violette aussi me plaît bien. Il se leva, promena un regard circulaire dans l'église. Tout était calme. Il redescendit la nef à pas lents. Entouré de nombreux curieux, l'Hispano-Suiza les attendait sur la place. Rome. En bon irlandais, Adrian Foster appartenait à une grande famille. 8 frères, 9 oncles, 12 filleuls, 25 neveux et 48 cousins, sans compter ceux à la mode d'Irlande, lesquels n'apparaissaient pas dans les statistiques parce que conçus de la main gauche un soir de pleine lune. Quant aux femmes, elles n'étaient là que pour procréer. Né dans cette famille nombreuse qui se nourrissait de patates et de salades de tourbe, Foster savait qu'il fallait toujours se méfier de ses proches, de tous ceux qui, parce qu'ils étaient censés avoir le même sang, l'avaient jadis attiré dans des chausses trappes et des complications sans fin. C'est ce qu'il essaya d'expliquer, en bon pédagogue, à son vieil ami Monseigneur Luigi Borghese. Ne sachant plus à quel saint du Vatican se vouer, celui-ci lui avait donné rendez-vous au Mandrillo. « J'ai déjà été convoqué par la police, expliqua le prélat, et mon abruti de neveu vient d'être arrêté à Reggio. Ce petit rigolo a voulu faire l'économie d'un billet. Il est donc déjà dans le train pour Rome, j'imagine. » Borghese secoua la tête. Non, les choses, Dieu soit loué, n'en étaient pas encore là. La Calabre n'était pas la Romagne. Les gens du Sud ne sont pas fous, expliqua le prêtre. Ils pensent avoir mis la main sur un gros poisson et ne tiennent pas à le lâcher. Quitte à le bourrer d'arsenic, à lui casser le col du fémur ou à le cuire à la broche, ils ne sont pas prêts, croyez-moi, de le réexpédier à Rome. Ils ont mis la main dessus, ils le gardent. Si les pontes de la capitale veulent le voir, ils devront descendre là-bas pour l'interroger. Les Calabrais le savent bien. S'ils se débarrassent de mon neveu, ce sont les gens du Nord qui seront félicités, récompensés, décorés et promus. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas? Oui, mais en attendant, le Saint-Siège me reproche maintenant d'avoir pistonné mon neveu. Est-ce ma faute à moi si ce petit morveux est un voyou? N'en rajoutez pas, Luigi. C'est vous qui l'avez mis dans ce pétrin. Borghese hocha la tête. Ah, Adrian, je vois bien que vous ne connaissez pas le Vatican. On m'y reproche d'être l'oncle de mon neveu. Mais aurais-je un neveu si l'Église ne poussait pas à procréer? Est-ce ma faute si cette fichue voiture du Vatican s'est égarée dans la nature? Par chance, Dieu soit loué, personne ne se doute qu'elle est en Allemagne. Mais voyez, Adrian, dans quelle situation mon neveu m'a mis. Foster haussa les épaules. La mauvaise foi de son vieux comparse l'amusait. Vous étiez fait pour être jésuite, Luigi, ou homme politique. Sachez du moins que la perfide Albion ne vous abandonnera pas. En cas de besoin, elle vous glissera dans la valise diplomatique et vous expédiera à Colombo ou à Sainte-Hélène. Trop étroit pour moi, j'en ai peur, dit-il en se tapant sur le ventre. Eh bien, vous ferez la vaisselle à l'ambassade en attendant la fin des hostilités. N'empêche, ma carrière est foutue. L'Irlandais eut l'air surpris. Votre carrière, Luigi? Mais l'Église a besoin de bras. Pensez à ces écoles, à ces hôpitaux, à ces léproseries d'Afrique. Regardez les listes des champs. Monseigneur Borghese hocha la tête avec tristesse. Oui, oui, bien sûr, les listes des champs. Trêve de citation. Franchement, vous me voyez dans une léproserie? On ne demande pas à un homme les qualités d'un cheval, ni à un prélat celle d'un missionnaire. C'est ici, dans les corridors du pouvoir, que je sers le mieux l'Église. Le prêtre consulta sa montre et se leva. Justement, je dois partir. Sa Sainteté le Pape m'attend. Il prépare d'arrache-pied sa nouvelle encyclique sur le national-socialisme. Hitler ne s'en relèvera pas. Foster hocha la tête. Bon courage, Luigi. Je vous laisse aller. Moi, je m'attarde un peu au Mandrillo. Votre sœur a, je crois, deux mots à me dire. Je vois, je vois. À tout péché, miséricorde, Luigi. Tout est la faute de votre neveu.